France Musique. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Depuis des millénaires, luthiers et facteurs d'instruments se nourrissent de bois rares, d'ivoire, de cuir, d'écailles. Mais depuis 2017, une norme émise par la CITES, qui est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, complexifie grandement le commerce de ces matériaux précieux. Le secteur de la musique n'était évidemment pas le premier visé par cet objectif louable de protection de la biodiversité, mais on est réellement impacté. Alors, quels sont les grands défis pour la facture instrumentale? Comment le monde de la lutherie s'est-il depuis adapté? Quel sera le bois de demain? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Fanny Rère-Ménard. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes luthière et vice-présidente de la Chambre syndicale de la facture instrumentale. La France, c'est un grand pays pour la lutherie.
La France, oui, c'est un grand pays pour la lutherie. La France a une longue histoire avec la lutherie. La France a été particulièrement importante pour l'élaboration et la conception des instruments de musique tels qu'on les connaît aujourd'hui, en particulier au tournant du 18e et tout au long du 19e siècle. La France reste un grand pays de lutherie avec des spécialités, les instruments avant, c'est vraiment notre fer de lance, les clarinettes, les saxophones, les hautbois résonnent dans tous les orchestres du monde.
On a une idée du nombre de luthiers qui travaillent sur ce territoire?
Alors, le nombre de personnes dans le monde des instruments de musique, on va compter un petit peu large, on est à peu près 4500 personnes, il ne faut pas que je dise 5000, mais 4500 c'est à peu près juste. On est encore un peu en train de dénombrer. Juste pour revenir, il y a les instruments avant, il y a aussi les archets, pour lequel et qui est une vraie spécialité française. Et puis évidemment, tous les autres instruments sont produits en France. Après, je vais me fâcher avec mes camarades, si je ne les cite pas tous, donc je ne vais pas les citer tous. Mais
voilà, tout le monde est là. Je vais vous demander quelques exemples, effectivement, parce que la première chose à laquelle on pense quand on associe lutherie et écologie, c'est bien évidemment au bois qui est largement pris en compte dans ce que je viens d'évoquer, cette fameuse convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, qu'on va résumer avec cette appellation CITES tout au long de cette interview. Ces normes qui complexifient le commerce et qui impactent grandement aujourd'hui la lutherie. Je posais la question, comment la lutherie s'adapte-t-elle? Peut-être donnez-nous un exemple d'une essence, d'un bois exotique qui devient de plus en plus difficile à utiliser.
Alors, je vais évoquer le palissandre. En effet, la CITES, en 2016, a décidé de protéger toute la famille des bois de palissandre et l'a fait très largement. Donc, elle a classé tout le genre, donc il y a 300 espèces, et elle a classé jusqu'au produit fini, ce qui veut dire que les instruments de musique étaient impactés. Alors, c'était pas une interdiction de commerce, mais juste, il fallait un permis pour chaque passage de frontière. La famille des palissandres, en fait, c'est une famille dont les instruments de musique sont globalement petits consommateurs, mais on en trouve dans absolument tous les instruments de musique. Donc, c'était un sujet formidablement fédérateur pour nous, je veux dire, qui impactait autant les facteurs d'instruments que les musiciens, parce que obtenir un permis à chaque fois qu'on passe une frontière, c'est juste dément. Et donc, pendant 3 ans, puisque c'est des cycles de 3 ans, nous avons négocié. Alors, la facture instrumentale française a été une voix très importante dans ce débat, mais on s'est associé avec les autres qui étaient présents et qui étaient le monde des instruments de musique américains, notamment le monde des guitares américaines qui étaient très présents, et on a constitué une coalition internationale avec également les représentations des orchestres et des musiciens pour porter notre voix. Et au bout de 3 ans, en août 2019, on a obtenu quelque chose d'incroyable, c'est que cette instance qui s'occupe de protéger les koalas, les dauphins et les orchidées a inclus dans son vocabulaire le mot instrument de musique avec une définition issue de la France de ce que c'est qu'un instrument de musique, très barbante sans aucun intérêt, mais grande fierté personnelle, et surtout une exemption de permis pour les instruments finis. Évidemment, tout le bois brut ou semi-fini continue à avoir besoin, doit être régulé parce qu'on veut que cette espèce soit protégée. Mais en revanche, nos instruments de musique, quand ils contiennent du palissandre, peuvent circuler librement.
Et effectivement, cette norme s'adressait en priorité à la construction, à l'ameublement et non pas aux instruments de musique dans un premier temps, évidemment. Il y a énormément de choses dont j'aimerais parler ce matin avec vous, Fanny Herrer-Ménard, notamment de la consommation. Vous parliez tout à l'heure du peu de palissandre présent dans les instruments. On a une idée par an du nombre d'arbres que cela concerne?
Alors, globalement, oui, mais non. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler de la consommation totale pour tous les instruments de musique, mais on va faire un focus sur nos instruments avant, puisque c'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui était de grande importance pour nos fabricants français. On a fait le décompte de combien d'arbres il fallait pour fabriquer tous les hautbois et les clarinettes du monde qui sont faits dans cette espèce qui ressemble à de l'ébène, mais qui est l'ébène du Mozambique, qui est le bois de grenadille. Et il faut, pour fabriquer, y compris les instruments chinois, 1500 arbres par an, ce qui est en fait un volume très, très peu important.
Et effectivement, je pense aussi au pernambouc dont on parlera tout à l'heure pour les archetiers. Je crois qu'il faut un seul pernambouc par archetier sur toute une carrière. Donc effectivement, on ne parle pas de consommation massive.
Absolument.
Bien évidemment. Les fabricants peuvent finalement aussi devenir un acteur dans la survie d'une essence.
Oui, c'est quelque chose qui est dans l'ADN en fait des luthiers, de beaucoup d'artisans, c'est d'être raisonnable et raisonné sur son utilisation des matériaux. Tous les luthiers sont des amoureux du bois et personne n'aurait envie de gâcher une belle pièce de bois qui arrive. Mais il a fallu aller un petit peu plus loin et c'est vrai que travailler 3 ans à la CITES avec les grandes ONG qui protègent l'environnement, la lutte contre la déforestation,
ça a créé des collaborations.
Oui, absolument. Et puis des prises de conscience. C'est-à-dire que là, en fait, même si on est petit consommateur, on est responsable de ce qu'on fait et on peut être des acteurs constructifs pour la reforestation et pour la lutte contre la désertification de ces territoires. Et en France, puisque nous avons cet intérêt particulier pour les clarinettes et les hautbois, on s'est intéressé à une association qui fait de la replantation. Alors, ils nous ont pas attendus. Hein. C'est une association qui a plus de 20 ans, qui s'appelle African Blackwood Conservation Project, ABCP, qui est basée en Tanzanie, parce que cet arbre pousse dans 2 pays, en Mozambique et en Tanzanie, et qui font un extraordinaire programme de replantation avec de l'éducation, ils ont à la fois des pépinières, parce qu'il faut faire pousser des plants, puis ils font des programmes de replantation en association avec des communautés, avec des écoles, parce que ces arbres, il ne s'agit pas juste de les planter, mais il s'agit de ce qu'ils vivent longtemps, puisque pour utiliser un arbre, il faut 80 ans.
Donc ça se passe sur plusieurs générations, c'est
voilà,
du projet à long
donc
terme.
C'est vraiment un engagement sur 3 générations au moins, et donc il faut créer cet intérêt particulier pour ces plantations, et c'est ce que fait cette association. Et le monde de la facture instrumentale, en fait, s'est engagé à apporter des fonds de manière régulière. Là, c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment, c'est d'engager des programmes à moyen terme pour les soutenir et pour qu'ils aient une visibilité pour pouvoir pérenniser leur activité.
Thank you.
Les premières mesures du Scherzo, extrait de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonín Dvořák, choisi par notre invitée ce matin, Fanny Rehr-Ménard, luthière, vice-présidente de la Chambre syndicale de la facture instrumentale. Nouveau Monde, c'est un peu ce que vous essayez de construire à votre manière en ces temps bouleversants, Fanny.
Oui, c'est une époque compliquée, compliquée pour le monde de la musique, compliquée pour nous. Les semaines se suivent avec des nouvelles difficiles. Et c'est vrai que on ne peut que construire, reconstruire ce qui se déconstruit. Et effectivement, on essaie d'être acteurs pour aller de l'avant et construire un nouveau monde, j'espère encore mieux et
meilleur,
plus passionnant.
Et continuer à développer ces initiatives déjà en place qui existent. Je pense à One Tree Planted, association soutenue par l'association professionnelle des luthiers artisans en guitare et autres cordes pincées qui développe des projets de replantation. Je crois que 4 millions d'arbres ont été planté plutôt en 2019. Il y a aussi l'International Pernambuco Conservation Initiative. On parlait du Pernambouc, ce bois utilisé par les archetiers. Eh bien, ce programme de replantation monté il y a 30 ans est lui financé par les archetiers du monde entier. Il y a une autre question qu'on se pose, parce que ça, eh bien, c'est mettre en quelque sorte un pansement ou développer ou maintenir, on va dire, ces arbres dans certaines zones du monde, zones géographiques. Mais est-ce que la lutherie ne pourrait-elle pas s'accommoder d'autres bois, des bois peut-être plus locaux ?
Alors bien sûr, ça c'est une... En fait, la lutherie a d'abord fonctionné avec des bois locaux. À partir du 18e, on a commencé à travailler de plus en plus avec ces bois exotiques qui ont des qualités tellement extraordinaires. Et c'est pas très loin de l'ADN des luthiers de travailler avec les bois locaux. Et en ce moment, notamment dans le monde de la guitare, c'est l'instrument le plus produit au monde. C'est pour ça que
c'est
important.
Bon exemple.
C'est un vecteur important. Et dans le monde de la guitare, il y a des projets. On pourrait évoquer un projet qui s'appelle Local Wood Challenge, qui a été monté par une absolument formidable association européenne qui s'appelle European Guitar Builder, l'association des fabricants de guitares européens. Et en fait, à l'occasion des salons qu'ils organisaient, ils faisaient un espèce de défi des luthiers d'arriver avec des guitares faites avec les bois locaux, en devant expliquer d'ailleurs quelles étaient les essences, d'où elles venaient. Et ils ont suscité une vague de construction d'instruments extrêmement intéressants et acoustiquement extrêmement intéressants. Et c'est une initiative intéressante. Simplement, les arbres sont les arbres. Et en fait, les problèmes rencontrés sur la pérennité et l'agroforesterie en général, en fait, sont aussi présents en Europe. Et donc, on ne peut pas penser qu'on peut faire basculer notre consommation de bois exotiques sur les bois européens sans réflexion. C'est juste pas possible. Donc, il faut composer avec tout. Mais c'est extrêmement intéressant de s'intéresser aux espèces locales, mais aussi pour préserver ces espèces locales. En fait, on est tout à fait dans les mêmes logiques.
Dans les mêmes problématiques. Fanny Rehr-Ménard, existe-t-il des filières de recyclage ? Je me posais la question, à savoir... des instruments qui traînent au fond d'un grenier, qu'on n'utilise plus, qui ne sont tout simplement plus en état ou qui nécessiteraient trop de travail pour les remettre en état. Est-ce qu'on peut déposer nos instruments quelque part pour récupérer un bout de bois par-ci, une touche par-là ?
Alors, les luthiers, alors moi je suis une luthière du quatuor, rien n'est gâché chez un luthier, tout se réutilise, on a tous des boîtes, des caisses, des stocks de petites pièces de bois qu'on réutilise indéfiniment. Je fais beaucoup de reméchage d'archets, toutes mes cales sont faites à partir des chutes de chevalet et autres, les poussettes, la partie en cuir, c'est les chutes de mes amies relieuses que je vais solliciter régulièrement, quoi. C'est vraiment dans notre ADN. Après, sur cette question plus globale qui est le recyclage des instruments de musique, en fait, c'est une question... Il existe des projets, il existe des associations, mais ça reste extrêmement ponctuel. Et c'est un vaste sujet que nous devons travailler. Nous avons doté la France de packs instrumentaux, d'instruments de très faible qualité ces 40 dernières années, principalement issus de Chine, qui sont, on a vraiment des espèces de cimetières des éléphants dans les conservatoires et dans d'autres lieux. Et il va falloir penser à ça, parce que ça, l'ère de l'instrument jetable, je pense que c'est inadmissible. Et il y a quelque chose à construire à la fois sur qu'est-ce qu'on fait avec ces instruments qui existent et comment fait-on les instruments d'étude de demain pour que ça ne soit pas dans cette, du tout dans la même logique. Avec des instruments peut-être de filière européenne, avec du bois certifié, et toute une réflexion autour de ça qui doit s'engager. Elle ne pourra pas s'engager juste du fait des luthiers. On y travaille. Personnellement, je travaille sur un projet de ce type-là.
Mais c'est aussi un sujet dont les musiciens doivent s'emparer.
C'est un sujet dont les musiciens. Quand on parle des instruments de musique, ce sont les grands commanditaires pour les instruments d'études que peuvent être l'État, les collectivités territoriales. Et puis, d'une façon plus globale, cette question-là, c'est une question pour les musiciens. Effectivement, en fait, il faut que les musiciens se posent la question, quand ils ont un instrument, de savoir de quoi il est fait, d'où ça vient. Et c'est vrai qu'il serait très, très important que s'inscrive maintenant dans la logique des relations entre les luthiers et les musiciens, que chaque fois qu'un musicien arrive et voit un instrument, il pose la question au luthier de savoir quel est ce bois, d'où vient-il. Parce que nous, ça nous obligerait à pouvoir répondre systématiquement à ces questions, ce qui fait que nos fournisseurs seraient obligés de pouvoir répondre à nos questions. Et rien qu'en faisant ça, on aura une filière beaucoup plus durable et beaucoup plus éthique.
Merci beaucoup, Fanny Reménard, d'être venue nous parler de ce sujet important ce matin sur France Musique. On vous retrouve très bientôt. On va suivre ce sujet dans cette émission. On espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Encore merci.
Et merci beaucoup de l'invitation.
À réécouter sur francemusique.fr.